Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Bonsoir à toutes et à tous et Wamba, Marion Guilbeault.
Super Wamba, Laurent Goumard, et bonsoir à tout le monde.
Bienvenue dans Côté Club, votre soirée live sur France Inter. Ça commence dans quelques instants avec Bibi Tanga and The Selenites. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Cut Killer, le bien nommé. Bonsoir.
Bonsoir.
Bibi Tanga de retour avec un nouvel album, The Same Tree, et toujours ce son qui joue funk, soul, jazz, afrobeat. La preuve avec deux titres en live, rien que pour nous. À vos côtés, une légende. Cut Killer refait l'histoire, sa vie, son œuvre, ses potes. Tout est consigné dans ce livre, Mixtape 2.0 chez Robert Laffont. Le film La Haine, Radio Nova, Skyrock, Puff Daddy, le hip-hop new-yorkais, le rap français. C'est la vie exemplaire d'un DJ, producteur, compositeur qui a marqué la révolution rap depuis 1989. Marion ?
À part le nouvel album de Bibi Tanga et les Selenites, le livre de Cut Killer, que se passe-t-il dans le reste de l'actualité musicale, des cérémonies, des concours, une expo, un documentaire? Tout cela est à retrouver dans le fil vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et sans plus attendre, on ouvre en live avec vous Bibi Tanga et vos complices The Selenites. Premier live, quel est le titre que vous avez choisi pour ouvrir la session?
The good side.
Et pour quelle raison?
Le bon côté, le mauvais côté. Parlons de côté.
C'est parti, sur France Inter. Allez.
One side of your face, the good one, it's made with love. One side of your face, the other one, is a gift.
Yes. Bibi Tanga, and the Selenites. On applaudit quand même, même si on est trois dans le studio. Bibi Tanga, and the Selenites, en live pour Côté Club. Quelle ouverture, prise de son. Guillaume Roux et Laurent Baudouin. Cut Killer, vous le connaissiez?
Je connaissais, oui. C'est marrant parce que c'est avec Joe Starr d'ailleurs on se faisait des sessions de d'écoute et à un moment donné il y a son frère qui arrive avec plein de morceaux et j'écoute ça et je fais oh c'est bien c'est pas mal et donc du coup je connaissais le nom et un des morceaux.
Et ben voilà, cool. En vrai, en chair, en os, Bibi Tanga à ses côtés, professeur Inlassable qui fait partie du groupe The Selenites, une collaboration qui date depuis 2003, on reviendra sur cette histoire. Vous connaissez Cut Killer?
Ah bah oui, quand même.
Carrément.
Pas personnellement, mais je le connais.
Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais reprendre les mots de DJ Snake dans l'ouverture de ce livre qui vous est consacré, puisque c'est vous qui l'avez écrit. Cut Killer est un pionnier, il connaît le game par cœur, il a pratiqué avec passion en ouvrant la voie à plein de monde. 113, DJ Abdel, Doudou Masta, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que des artistes comme lui ont ouvert des portes, cassé des codes à la façon de David Guetta ou des Daft Punk. Il a ramené en France beaucoup de culture américaine, il voyait tout ce qui se passait à New York et l'importait à sa sauce. L'esprit Cut Killer toujours visait plus haut, découvrir de nouveaux territoires où personne ne nous attendait. Aujourd'hui, passer du hip-hop à Saint-Tropez, c'est presque un cliché, mais il y a 20 ans, on ne trouvait pas un seul arabe là-bas. Cut Killer, Abdel, les premiers rebeux, participant au Festival de Cannes aux côtés des stars d'Hollywood, c'était dingue. Le level était haut et ça, ça ne s'oublie pas. Cut Killer mixant à Ibiza, au Pacha ou ailleurs, c'était énorme. Le symbole était fort, le hip-hop s'infiltrait dans des endroits où il n'avait pas sa place, où il était mal vu et le défi était relevé. Cut a gagné 2 awards du meilleur DJ hip-hop à Ibiza. Heureusement, ce ne sont pas les seuls titres que vous avez eus, mais c'était déjà énorme pour vous. C'est pas mal. Voilà un parcours. Alors, Cut Killer, vous signez les mixtapes 2.0 chez Robert Laffont, c'est votre autobiographie. Le titre n'est pas innocent, car c'est vous qui avez importé en France, depuis les États-Unis, le concept des mixtapes. En quoi ça a pu changer la donne?
Ça a changé la donne pour une raison très simple. À l'époque, en tant que disque jockey, puisqu'on vient avec ce mouvement hip-hop, et on a différents protagonistes qui, eux, veulent faire ou du rap, ou de la danse, et les DJ, nous, on était considérés comme des disques jockey qui étaient derrière les artistes. Donc derrière les rappeurs et le fait de pouvoir s'auto-promotionner, c'était très compliqué. Et on a remarqué la première fois arrivé à New York avec mon groupe IZB que des DJ pouvaient se promotionner grâce à des cassettes mixées que nous on faisait nous à Paris, c'est-à-dire que c'est notre ami qui dit ah, tu veux pas me faire une cassette s'il te plaît, ouais, je t'en fais une. Bah t'as l'autre qui fait ouais moi je veux mais pas la même. Donc tu prends une heure et demie de ton temps pour refaire autre chose avec une autre playlist. Ah non, c'est trop compliqué. Bref, et donc du coup on voit qu'effectivement avec ce cadre-là, on pouvait s'auto-promotionner avec les cassettes mixées de l'époque.
La première fois aux États-Unis, vous avez rencontré qui? Vous aviez quel âge d'ailleurs?
Quand j'arrive, moi j'ai 17 ans. C'est extraordinaire. C'était alors nous on y va en équipe, donc on est une quinzaine et on rencontre Lucien Papalou, qui est effectivement un des premiers Français qui intègre ce mouvement aux États-Unis, qui est très connecté avec un groupe qui s'appelle Tribe Called Quest, De La Soul, Queen Latifah et les Jungle Brothers. Et de là, il nous met dans ce game-là avec tiens, bah je te présente ceux que tu as en disque, tu les as, ils sont dans une soirée avec toi. Et là, je fais quoi? C'est ça New York? Parce que nous, à Paris, quand on fait des soirées, non, c'est pas ça. Si t'arrives à voir déjà une personne, c'est un grand moment. Mais c'était impressionnant. Donc, on a vu ça et on était là, ah ouais, d'accord, ok, on a compris le concept.
Mais oui, Tanga, ça vous dit quelque chose, tous ces noms?
Ah mais là, mais c'est énorme, non mais je suis vraiment ravi de l'avoir en face de moi aussi, parce que enfin, on a à peu près le même âge, je pense.
51 hein. Aujourd'hui.
Ouais. Oh, je suis un peu plus vieux. Mais ça me fait penser à toute cette période où justement, il y avait tous ces DJ qui étaient bizarrement, à l'époque, moi quand je suis arrivé en France, fin des années 70, la majeure partie des grands du quartier qui collectionnaient des disques, c'était que des rebeux.
Ouais.
Voilà. Et en fait, c'était des gens qui achetaient des disques, qui allaient aux puces. C'était les premiers. Pour moi, tu faisais partie de ces DJ-là, qui ont eu la chance de commencer à voyager aussi, et puis de ramener un peu la culture new-yorkaise ici, quoi. Donc c'est vrai, je suis vraiment ému en fait.
D'autant plus que je crois que vous avez assisté, sans le savoir d'ailleurs, à la naissance du mouvement hip-hop à Brooklyn en 78.
Exactement, parce que mon père était affecté là-bas à l'époque.
Diplomate
avant qu'on arrive en France. Et donc on habitait justement à Brooklyn, on y allait assez régulièrement pour le voir. Et donc les étés, on était là, bon ben, on voyait des gens danser par terre avec des gros postes, on comprenait pas ce que c'était. Et c'est arrivé en France, en réécoutant des morceaux 2-3 ans après, on entendait les premiers trucs de Sugar Gang ou même certains titres un peu de Africa Bambaataa et tout ça, et qu'on commençait à se rendre compte qu'en fait c'était ça en fait le hip-hop.
Exactement.
Donc
incroyable.
Ah ouais. Mais en plus tu as IZB, mais IZB c'est il y avait aussi le groupe de graffeurs. IZB.
Oui, il y avait le graffeur avec Angelo qui aujourd'hui est qui est devenu le patron de Live Nation.
IZB pour la vie, je me rappelle.
Professeur Nassar, vous avez eu, vous aussi, votre carrière américaine. Enfin, quand je dis carrière américaine, ça fait très... Non, pas vraiment.
Moi, années 70, Marie-Thier Gilbert Carpentier.
Ça fait très Sylvie Vartan.
Voilà.
Très Sylvie Vartan,
c'est Las Vegas.
Votre carrière américaine.
Non, moi j'étais plutôt... je faisais partie de la scène rock bordelaise, adolescent.
Ouais.
Donc j'étais vraiment sur la scène rock, ouais, plutôt dans un courant plus rock anglais, new wave, punk, enfin tout ce mouvement qui est arrivé en 76-77. Après, c'est Bibi qui m'a plus amené vers la culture groove et afro, etc.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est en 2003, hein, je crois, que vous vous rencontrez. Vous aviez déjà sorti votre premier album, oui. Le Vent qui Souffle, Baby Tanga. Oui. Le fait de travailler donc avec un ex-rocker bordelais,
voilà,
justement, qui avait cette culture-là, qu'est-ce que ça a amené pour l'un comme pour l'autre? Baby Tanga, qu'est-ce que le son de Professeur Inlassable a apporté dans votre propre parcours?
Moi, ce qui m'a vraiment plu quand je suis arrivé dans son studio, c'est que tout était branché et qu'on pouvait faire de la musique tout de suite. Donc il y avait ce côté, il n'y avait pas le temps où on réfléchit, on est tout de suite dans l'action, quoi.
Ouais, parce que justement, j'utilise une technique de DJ, moi aussi. Quelque part, je mélange, j'ai toujours 3 platines, et donc j'envoie des sons qui sont déjà mixés. Donc en fait, quelque part, c'est cette impression qu'il avait de tout de suite. Parce que quand on rentre dans un studio, il peut se passer 6 heures avant qu'un mec règle la grosse caisse, 5 heures sur la caisse claire, et là, ça tue l'amour. Je dirais. C'est un tue-l'amour, quelque part.
Alors que là, chez vous, il n'y a pas de préliminaire, en fait. C'est direct au but.
Voilà. Si on peut utiliser cette image.
Voilà. Alors, je vous laisse retourner, justement, au micro, derrière, retrouver les gars de The Selenites, dont votre fils, d'ailleurs, Professeur Inlassable, ça se fait aussi en famille, pour un nouveau titre. Un titre intéressant parce que c'est le titre qui ouvre l'album. Le titre, c'est Kindagoso. Vous allez chanter en sango. Qu'est-ce que vous allez dire dans cette chanson qui ouvre l'album, Baby Tanga?
Je vais parler essentiellement de nourriture.
Ah ouais?
Kinda gozo, en gros, ça veut dire renverser la boule. Gozo, c'est le manioc. Donc, c'est ce qui accompagne. Bon, c'est un plat qui est assez consommé quand même en Centrafrique et dans d'autres des régions alentours, quoi. Et c'est aussi le petit nom qu'on donne aux sauterelles, très appréciées dans cette région, les kinda gozo.
Tout de suite, bon appétit, bien sûr, bon sur France Inter, en live. C'est Baby Tanga and the Selenites.
Get the kid up, cause I'm eating, bring a nigga. merengue a ti merengue ay que ando pianizo a cotara que sara nigiri azo a que anda ahí a que anda ahí na bon bon y eso y eti y eti y ti te cope y da cosa wala kusa da cosa wala munja mo da cosa wala kusa mo da cosa ababa na mama da cosa wala nyama da cosa kusa kusa da cosa ababa na mama Dani, Mobani, Moinga Dani, Mobani, Moinga Dani, Tizomi, Titeni.
Et de retour avec ce nouvel album Same Tree pour Côté Club avec le groupe The Selenites. Nous les présenter, Bibi Tanga.
Alors, à la guitare, nous avons l'excellent monsieur Karim Atouman qui est aussi l'autre guitariste, parce qu'il y en a un autre aussi qui est là, originel, mais qui n'est pas là ce soir. C'est Eric Kerridge, mais là c'est Karim Atouman, l'excellent monsieur K. À la drum, nous avons monsieur Arnaud Biscay, Kiss the Sky, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Ouais.
Il est un peu basque.
Porte une marinière. C'est pas marqué hein, qu'il est basque sur son nom.
Mais c'est bien de le dire.
Ouais.
Au clavier et aussi au violon, mais pas sur ce coup-là, mais au clavier aussi, Arthur Simonini.
Et lui, il n'a pas d'origine. Il est ni
basque. Ah, ben bah si, il a un peu. Il y a de l'Italie, il y a du basque.
Ah,
bah
voilà,
il y a du béarnais peut-être un peu, non? Non, pas du tout. Ah, ouais, bah voilà.
Il y a un côté. Professeur à la sable.
Professeur à la sable, l'inégalable.
Bibi Tanga, chanteur multi-instrumentiste, premier album en 2000, Le Vent qui souffle, mais avant un parcours déjà dans la musique, et c'est dans tous les portraits qui vous sont consacrés. Vous vous êtes produit au départ dans le métro à Paris, comme plus tard hein, d'ailleurs le guitariste nigérian Keza Jones. Juste une chose, quel était votre répertoire dans le métro à l'époque ?
Oula, le répertoire, bon, il y avait...
Vous chantiez ?
Je chantais, des fois j'avais un peu le saxophone, je faisais quelques petites reprises un peu mielleuse, pour... voilà.
Oui, pour appâter le chaland.
Pour appâter le chaland, et puis... Après, c'est vrai que les reprises que je faisais, c'était surtout des un peu soul aussi, et puis pas mal de négro spirituel, un peu Ella Jenkins, genre... Oh, oh Lord in me, is this oh Lord in my, who's gonna be human? Oh Lord in me, is this oh Lord in my, who's gonna be human? Qui était un disque que nos parents nous mettaient tous les matins avant d'aller à l'école.
Ah oui,
ouais.
C'était le rituel du matin.
Ouais, ils aimaient ça, ils nous mettaient Ella Jenkins, qui, je le signale, est encore vivante, qui doit avoir plus de 90 ans, qui est une spécialiste de la musique afro-américaine. Et donc voilà, ça entre autres quoi.
On mettait des choses aussi chez vous le matin pour vous faire partir à l'école.
Non, mon père, mon père partait déjà avant, mais oui. le soir, oui, il avait sa petite collection et c'était beaucoup de Farid El Atrache, Oum Kulthoum, parce que c'était.
Dans, c'était dans les grandes voix égyptiennes, ouais, des comédies musicales égyptiennes du Moyen-Orient, c'est super. Alors vous jouez, on l'a entendu, hein, jazz, hip-hop, soul, afro-funk, mais peut-être avec un sous-texte rock'n'roll. C'est pas la première fois. Hein. Comment témoigne ce titre, Like a Rolling Stone?
Gonna help me, so I'm still singing. Don't wanna leave too soon. They'll say I wasn't learning. Like a rolling stone, I go on and on. Like a rolling stone, I go on and on. Like to rock and roll, like a rolling stone.
Quelle place les Rolling Stones dans votre construction pour qu'ils apparaissent dès le deuxième titre de ce nouvel album, Bibi Tanga?
Oh, c'est surtout aussi ce que veut dire Rolling Stone, quoi, la pierre qui roule. Hein. C'est un peu le voyageur, celui qui vit au gré des histoires et tout ça. Et puis bon, c'est un clin d'œil aussi au groupe. C'est un clin d'œil à tout ce rock anglais, enfin à toute cette musicalité anglaise qui a découvert pas mal de monde, dont Jimi Hendrix, dont je suis énormément fan. C'est marrant de voir comment les Anglais ont découvert du monde, dont pas mal de d'artistes américains. Donc j'aime bien un peu cette démarche qu'il y a eu en Angleterre.
Des titres en anglais, des titres dans la langue de son pays.
En sango, ouais.
En sango. Mm-hmm. Rien en français.
Si, il y a eu sur le premier album qu'on a fait, un titre qui s'appelait Au fil du temps.
Oui. Voilà, mais là, cette fois-ci.
Ça s'est pas présenté.
On n'a plus rien à dire en français.
Si, on a des choses à dire, mais en fait, les choses se font d'elles-mêmes, on va dire. Quand on jam justement pour faire les morceaux, des fois ça vient en singo, des fois ça vient en anglais. Et il y a des fois des morceaux qui viennent en français, mais qui sont pas retenus à la fin parce qu'on fait toute une ribambelle de morceaux avant de décider d'en choisir quelques-uns pour faire un album.
Mais ça veut dire que vous improvisez, c'est-à-dire quand vous travaillez ensemble, professeur Lassalle, comment ça se passe
sur une base d'improvisation que je lance, c'est comme si j'ouvrais un chemin que les autres suivent en fait. Comme si je suis souvent sur une trame de répétition, de boucles répétitives qui créent une transe et qui créent finalement un chemin approprié pour que les gens racontent une histoire.
Vous comprenez ce mode, j'imagine, Cut Killer ?
Complètement.
Vous qui êtes aussi producteur, qui avez un label depuis 95.
Oui, complètement. Quand j'ai monté mon premier studio, c'était la foire de 6h du matin jusqu'à le lendemain 4h du matin.
C'est vrai qu'il y a un peu ça. Ouais.
Ils sont arrivés à 3h du mat, il y a moyen de... Vas-y, il n'y a pas de problème.
Politiquement, Baby Tanga, vous avez toujours prôné le vivre ensemble, il y a pas mal de titres qui donnait cette dimension-là, la paix. Mais quand on regarde la situation aujourd'hui en Centrafrique, avec les mercenaires russes du groupe Wagner, vous restez sur cette position optimiste du vivre ensemble ?
Ah, mais il faut définitivement rester optimiste et surtout bien comprendre que le monde est fait de nuances. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ramener la nuance dans le débat. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. C'est-à-dire que même dans les discussions, on va toujours, les uns et les autres, rester sur des positions blancs, noirs. C'est pas le cas. Donc quand on parle de la...
Il a eu un père diplomate, je rappelle.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de ce pays centrafricain que je connais très bien, lequel je vais régulièrement, la première des choses qui, moi, m'interpelle, c'est le regard des gens. Quelle que soit la situation. Quand ça a démarré en 2013 et que je me suis retrouvé là-bas en 2014 juste pour rendre visite à mon père, il faut voir le regard des gens. Donc on parle des populations qui n'ont pas les mêmes attentes que les populations qu'on trouve en France. Donc qui traversent depuis des décennies des situations de pauvreté. Et c'est vrai qu'on peut s'offusquer de dire, mais attendez, avant, c'était une partie de la France qui était là, maintenant c'est les Russes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous nous faites ? Non. Parlons déjà aux gens, en leur demandant, mais qu'est-ce qui vous arrange ? Quelle est votre vie, quoi ? Et je pense que cet aspect-là que je suis en train de souligner n'a absolument pas été abordé quand on parle de la Centrafrique. On pointe du doigt, effectivement, d'un côté, à un moment, on pointe les Wagner, d'un côté, on pointe les Français, c'est ça, mais...
Les Français qui vont quitter d'ailleurs à la fin de l'année. Hein, les 130 derniers militaires français vont quitter la Centrafrique. Mmh. Alors je sais qu'il y a des Centrafricains qui sont plutôt pour, ou disons qui s'en foutent complètement, et d'autres qui sont un petit peu inquiets par rapport à la sécurité qui pourrait dégénérer, non ?
Il y a un peu de tout, parce que cette histoire de sécurité, elle date pas d'aujourd'hui.
Ah, mais bien sûr
que
non.
Oui, ce que je veux dire, c'est que quand ça a commencé à dégénérer en 2013, ça a vraiment dégénéré, ça s'est pas arrêté. Il y a eu des moments où l'État a réussi à regagner certaines zones et tout ça. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre dans le débat la nuance.
Est-ce qu'il y a certains de vos titres dans tout ce parcours musical qui ont été importants justement par rapport à la Centrafrique et par rapport aux Centrafricains ? Des titres qui ont pu être repris presque comme des hymnes là-bas ?
Oui, je peux le dire, oui. Béafrica, il y a eu aussi un titre qui s'appelait Alazaï, qui justement parle un peu de la situation, qui demandait, de la population qui demande, laissez-nous tranquilles, quoi, en fait, laissez-nous vivre notre vie, quoi. Et Béafrica, qui, sous le prétexte de parler d'aliments et de fêtes, rappelle un peu justement ce vivre ensemble, qui est très cher justement à ces populations-là.
Juste un extrait de ce nouvel album de Sam Tree. On va prendre le titre qui donne le nom à l'album.
God will wisely make his choice. No one could make it better. Whatever we go through, joy and pain, there will be return forever. Can truly the human race cherish this world forever. Whatever
cost of life we pay. Maybe we'll have to suffer.
J'adore ce titre, Cut Killer. Qu'est-ce qui vous inspire?
Ah, j'étais transporté.
Ouais, ce côté reggae man.
Ouais, ouais. Extraordinaire, j'adore.
Qu'est-ce qui se raconte dans ce titre pour qu'il donne son nom à l'album?
Bah, c'est un peu,
Bitanga.
Bah, en fait, j'ai l'impression que, de toute façon, dans le monde, je pense qu'on se ressemble tous. C'est-à-dire que les micro-histoires sont aussi calcables sur sur la grande histoire. C'est-à-dire que si on arrive chacun à se raconter honnêtement, ça peut servir à de plus grandes situations. C'est-à-dire que on faisait un peu l'analyse de notre histoire de groupe, on a eu des embrouilles, on s'est rabiboché, une vraie histoire de famille, et du coup, c'est aussi ce qui donne notre son d'aujourd'hui. Et en fait, on en arrive à la conclusion qu'on vient tous du même arbre. Donc, we're the same tree, we're from the same tree. Donc, à un moment donné, il va falloir s'entendre. Voilà quoi, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il va falloir s'entendre.
Allez, je vais vous donner un dernier son, Bibi Tanga. Vous identifiez ce son?
Ah bah oui, c'est Thierry Ardisson.
L'émission Salut les Terriens.
Salut les Terriens, qui a été notre boss pendant près de 11 ans avec le groupe qui s'appelle Égrément de Fortune.
Ouais.
Et ce titre, donc, qui était composé par le premier groupe, qui est resté un an, qui s'appelait No Jazz, que je salue d'ailleurs, qui est resté le générique de son émission.
Ouais.
Et donc, on est resté 11 ans avec ce monsieur et on s'est bien, bien amusé. On a appris pas mal de choses, notamment que, pour ton premier jour de télé, tu vas paniquer. J'ai dit non. Il m'a dit si, tu vas paniquer. Et il avait raison. Et j'ai paniqué.
On a parlé radio tout à l'heure avec Cut Killer. Je pense pas qu'il ait paniqué à la radio. C'est un vrai homme de radio avec une voix de basse. Il devrait même chanter. Allez, Bibi Tanga, Cut Killer, vous restez avec nous. Marion va nous tisser le fil de l'actualité musicale dans quelques instants, juste après De Joa et Lieutenant Nicholson qui nous invitent sur leur planète. C'est bien, ça permet de patienter puisqu'ils seront nos invités live côté club dans quelques semaines.
Tous le cœur en fait. On te remercie pour toute l'énergie.
J'adore, 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 j'adore.
Les oiseaux,
j'adore.
On vole synchronisé,
j'adore.
La forêt,
j'adore.
Ou sur les racines,
j'adore.
Cache à l'eau,
j'adore.
C'est son doigt caché l'eau,
j'adore.
Pangolin,
j'adore.
Sauver les pangolins,
j'adore.
J'adore, moi aussi. D'ailleurs, on va les recevoir dans quelques semaines. On a déjà les dates pour Jojoa et Nicholson.
Oui, non. On a déjà une date.
D'accord, mais
on
l'a pas.
Mais il faut me payer très très cher pour que je vous la donne.
Ah, bah non, je préfère okay, encore que vous fassiez le fil. Au moins, voilà. C'est gratuit.
Côté club, le fil.
Comment faire mieux que la fête est finie? C'est la question posée dans la seconde partie du documentaire. Aurel San montre jamais ça à personne. Après le succès de la première partie qui retraçait l'ascension du rappeur français à travers des images d'archives inédites, quatre nouveaux épisodes co-réalisés par Clément Cotentin, c'est son frère, et Christophe Offenstein suivent le douloureux parcours créatif d'Aurel San pour accoucher de son dernier album Civilisation. Alors c'est comme regarder un polar dont on connaît le coupable et la fin, mais c'est sympa quand même. Dès demain jeudi, 13 octobre sur Prime Video. Et si le Aurel San de demain était une fille, une des finalistes de Rappeuses en Liberté? C'est un dispositif d'émergence et d'accompagnement de jeunes rappeuses. Elles sont en concert ce soir au Mama Festival à Paris. À l'issue de ce concert, trois finalistes de l'édition 2022 seront dévoilées. Ces trois jeunes filles deviendront les égéries d'une grande marque sportswear comme les autres et feront l'objet d'un accompagnement ultra professionnalisant supplémentaire pendant un an. On en reparle bientôt dans Côté Club. Et décidément, ça s'organise de plus en plus sur le front du rap, avec même une nouvelle cérémonie qui lui sera dédiée, les Flammes. Initiée par trois acteurs du rap, Yard, Bouscapé et Smile. Première édition, ce sera le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris. Les Flammes a pour ambition de mettre en avant des artistes, des créateurs et créatrices de contenu francophone et urbain. Une cérémonie née en réponse à des frustrations, pas de catégorie rap aux Victoires de la Musique depuis des années et qui entend bien célébrer le hip-hop français comme il le mérite.
This is just, this shattered all expectations. This is awesome. You guys gotta come back.
Jean-Sébastien Bach en mode breakdance. Après avoir tourné dans 35 pays, fasciné plus de 500 000 personnes, le spectacle Flying Back atterrit en France pour la première fois aux Folies Bergères le 29 novembre. Ne me regardez pas comme ça, Laurent. Un spectacle qui réunit les Flying Step, quatre fois champion du monde de breakdance, et Christophe Hagel, célèbre chef d'orchestre allemand. Voilà, une adaptation unique du spin down ou de la coupole, c'est des figures de breakdance, sur un clavier bien tempéré, ça doit bien vriller. Enfin, c'est le 20 octobre qu'ouvrira l'exposition Fela Anikoula Pokuti, Rébellion Afrobeat. À la Philharmonie de Paris, la musique est l'arme du futur. Ce sont les mots du Black President, inventeur de l'Afrobeat, activiste politique, showman inoubliable, né et décédé au Nigeria. Une expo qu'on espère à l'image de sa musique hypnotique et énergique. Alors, le documentaire sur Aurel San, l'expo Fela, la nouvelle cérémonie, les Flammes dédiées au hip-hop ou Bach en mode breakdance. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Cut Killer?
Toutes. J'étais en train de me poser la question en me disant, même Fela qu'on a samplé en fait dans le rap, toute l'actualité là, elle est basée sur ce mouvement hip-hop, c'est incroyable.
Ah, mais non, ça, oui, ça s'appelle éditorialiser une émission. Oui, c'est du boulot, vous savez.
Bien sûr. Non, mais c'est intéressant qu'il y ait ça en ce moment même
oui,
si on
oui, oui, plus tout à fait,
de toute façon. Ouais. Illustre, bien évidemment. Ouais. Mais c'est,
par exemple, les Flammes, cette nouvelle cérémonie qui va être dédiée à la culture hip-hop.
Complètement. Là, après, c'est comme d'habitude, il y a eu à un moment donné une espèce de cérémonie qui a été intronisée il y a une dizaine d'années. Ça n'a pas marché. Donc là, on va essayer de voir si ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en avant cette culture, cette musique, puisque forcément, les Victoires de la Musique n'ont pas du tout envie que cette musique soit intronisée. Enfin,
ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas envie, mais en même temps, c'est ce qui marche. Et ce qui,
oui.
c'est,
mais ça voilà, ne les intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas. De votre côté, professeur Inlassable, Bibi Tanga, quelle est l'information qui a retenu le plus votre attention?
Non, mais c'est vrai que, ouais, non, mais bon, après, c'est Kuti, quoi.
Bah, ah oui, vous avez levé le poids, vous avez levé le poids.
Non, mais oui.
Il part en folie, là.
Ouais, non, mais oui, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie de ce qu'on écoutait gamin. Et ouais, c'est
dans toute l'Afrique.
Dans toute l'Afrique. Et puis, ça me fait penser à mes parents, ça me fait penser à ma mère, ça me fait penser à mes tantes, ça me fait penser à tout ça, quoi.
Et pour vous, professeur Inlassable, quelle est la nouvelle qui vous a intéressé?
Moi, ce qui m'intriguerait, c'est la conversation entre le hip-hop et Bach.
Ouais.
Forcément, ça m'intéresse parce que, bon, je suis toujours dans ces conversations, en fait, de genre. Je trouve ça toujours drôle quand des genres, enfin, pas opposés, mais en tout cas très différents, se rencontrent et créent une harmonie. Alors après, il faut le faire avec suffisamment de goût. Bon, parce que c'est voilà.
Oui, Bibi Tanga.
Non, mais c'est vrai que comment dire le hip-hop est déconsidéré d'une certaine façon peut-être parce que.
Bah pas aujourd'hui.
C'est non, mais c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même ça a quand même a été après il y a eu rock, punk et quand l'hip-hop est arrivé, ça a vraiment été un événement majeur quoi. Ça a vraiment transformé la vie d'énormément de gens et c'est vrai que ça on le rappelle pas assez souvent quoi. C'est un moment majeur quoi.
Ah bah justement, on a un des héros de cette civilisation hip-hop avec nous ce soir, c'est Cut Killer. Ça va être à nous, mais on va parler hip-hop, rap, DJ avec vous. Mais d'abord, il est seul avec du monde autour, c'est Aurel San.
Dieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans. Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen. Ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs, sans la vérité sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. J'suis content rien que de la boire, avant je voyais que l'immeuble d'en face. J'essaie d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes. Une fois sûr de j'rate mes plats, donc en attendant j'mange des pâtes. J'ai max une barre de 3, j'ai lève le bras pour capter. 20 minutes pour mater, une vidéo qu'en fait 4, ouais. Je rejoins mon père au stade, on prend de buts, on prend de bières. J'retourne chez moi, j'allume FIFA, j'reprends ma l'herbe, j'continue de perdre, ouais. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour.
Côté club.
Et ouais. Laurent Goumard.
C'est moi. Cut Killer. J'adore. Eh oui, de temps en temps, il faut le dire. Cut Killer, sa vie, son œuvre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une légende vivante, sur le DJ star hip-hop, c'est dans Mixtape 2.0, le livre. Alors, pour situer le personnage, une avalanche de nombres dans les premières pages, 35 ans de carrière, plus de 5000 soirées, 3 émissions de radio, aucune sur France Inter, 3 millions de passe-passe de cut, c'est quoi ?
Les passe-passe, c'est quand on a deux disques équivalents et puis on fait une boucle en fait avec une table de mixage et les platines et les mains et puis on reproduit en boucle en direct avec c'est une technique.
Mais qui a fait ce chiffre 3 millions, qui a comptabilisé tout ça?
En fait, on fait approximativement en fait une direction de tout ce qu'on a fait, mais c'est impressionnant. Et là, quoi, ces chiffres-là, c'est rien que de ce qu'on a fait réellement, parce que je passais, je pense, 7 à 8 heures par jour. C'est comme un musicien qui apprend un instrument, en fait.
C'est clair.
À travailler l'art du scratch, du DJ, du mix, c'est impressionnant.
Vous avez essayé de faire ça un petit peu aussi, Bibi Tanga, de scratcher un petit peu. Vous avez.
On a tous essayé. Puis
bon, pas moi.
Non, nous on a tous essayé et puis on a tous arrêté.
Sauf lui. Cut Killer, la bio pour une figure emblématique de la culture hip-hop en France, avec rayonnement international, mais au point même que certains pensaient que vous n'étiez pas français, Bibi Tanga.
Mais carrément.
Vous pensiez qu'il était américain.
Bah, moi, on en entend. Moi, j'ai longtemps pensé ça. Je sais pas quand j'ai découvert que t'étais pas américain. Parce que.
Il en avait fait, une casquette sur la tête. Bon, bah, ça encore.
Non, mais ça, déjà, bon, le coup de la cassette, mais c'est surtout les productions, quoi. C'était tellement chiadé qu'on se disait, mais non, ça vient pas d'ici.
J'avais la casquette vissée parce que j'étais trop introverti et j'avais peur à chaque fois. Donc, du coup, c'est comme les prémices de Daft Punk. Il fallait pas qu'on voit mes yeux, tout ça. Je voulais pas voir. C'est un peu comme Snake aujourd'hui qui met ses lunettes de soleil. C'est pas pour être à la mode, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose qui fasse on a une ligne de défense.
Alors, le premier épisode de cette relation avec la culture hip-hop, la révélation, c'est l'émission de Sydney sur TF1, HIP, HOP. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Parce que ça a été le cas pour plein de gens. Mais pour vous, précisément, qu'est-ce qui s'est joué avec cette émission où on voyait des gens qu'on ne voyait jamais à la télévision auparavant?
Nous, on est dans une culture où ce qu'on voit à la télé, on le ressent, Star Sky Hush, le journal de 13h, c'est une institution. Et puis tout d'un coup, tiens, ah bon, on peut être à la télé, ah c'est génial, mais c'est quoi ça, c'est cette musique, c'est les gens dansent et tout, j'ai l'impression de voir mes potes de quartier qui sont en train de jouer à la poste et qui sont à la télé, c'est impressionnant, c'est quoi cette culture, c'est quoi cette musique, on essaie de comprendre, et puis on avait les prémices avec les Enfants du Rock à l'époque avec Manœuvre qui nous expliquait aux États-Unis, mais en France non, là c'est HIP-HOP qui nous le donne.
Vous le racontez, vous devenez DJ à 17 ans, 1m90, vous les faites toujours, à Saint-Ouen, un soir de réveillon. Comment vous avez compris que vous étiez DJ ce soir-là, alors même que vous le racontez quelques pages auparavant, la culture hip-hop, c'est le graphe. Bon, vous avez fait une expérience dramatique, il pleuvait le jour où vous êtes mis au travail, donc ça c'était la catastrophe. Ouais. La danse, vous n'aviez pas cette technique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rap, vous avez essayé, vous avez été arrêté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le beatbox. Donc, restait le DJing. Ouais. Mais pour autant, le DJing demandait un apport financier très important. En fait.
Exactement, parce que nous, on avait une chaîne IFI, donc du coup, on savait que c'était une courroie, donc impossible de scratcher, parce que dès que tu mettais la main, ça partait dans... Et il fallait cette platine, absolument, la technique CSL-1200MK2, qui était indéniablement la seule qui pouvait effectivement nous donner cette possibilité d'avoir cette technique, et puis une table de mixage pour pouvoir couper et mixer, et c'est vrai que j'ai découvert ça qu'à partir du moment où j'ai vu Dynasty officier dans les soirées au Globo et autres DJ qui étaient là, et j'ai appris en fait comme ça, en regardant. Et le jour où j'ai pu m'acheter cette première platine, ça m'a semblé tellement évident que j'ai dit, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est autodidacte au possible.
Le Globo, d'ailleurs, c'était un des clubs où, au départ, c'était pas si facile d'entrer.
Chez Roger Bois de Funk, Jacques Massadian, Loïc Durin, Radio Nova, c'était avec les Buffalo à l'époque, c'était des grands Golgoth Black et tout. Et crois-moi que tu peux pas rentrer comme ça. Moi, j'avais 16 ans, mais j'étais effectivement longiligne, 1m80. Ça va, ça passait pour faire comme si j'avais 18 ans. Donc ça va, c'est passé. Mais c'est vrai que. Ah non, mais c'était. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu fais la queue, mais c'est la guerre. Il y avait les dépouilles, il y avait les quartiers qui arrivaient en plein centre de Paris. C'était. Je me rappelle d'un soir de Public Enemy concert.
Ah oui, j'y étais.
C'était extraordinaire. Il y avait toute la banlieue parisienne. Il y avait 4000 personnes pour un club qui pouvait contenir à peine 600.
Incroyable.
Et les routes bloquées.
Les gens se tenaient pour sauter en même temps.
Mais c'était incroyable. C'est extraordinaire. Et effectivement, le Globo, grand moment.
Alors, pour écouter quand même le son signé Cut Killer, je vous en propose 4 pour vous identifier. Le premier, on est en 1994. Qui qu'est-ce qui se joue avec ce New Jack Volume 1 pour vous, Cut Killer, en 1994? Ça signifie quoi?
C'était un mouvement musical qui est la suite du rhythm and blues, les prémices du R&B aussi contemporain des années 2000. Et puis cette musique-là, c'est la New Jack, ça nous parle. C'est du chant, c'est à la différence du rap qui est rappé, qui où on était assez virulent. Le chant était là pour nous donner une direction artistique sur la manière d'être soi-même, même si t'étais pas féminin, parce que le masculin, quand on disait tu chantes du R&B, tu fais non mais c'est pour les filles, non, ça marche pas comme ça. Mais il y avait quand même des codes et des directions sur la partie chantée, et c'était extraordinaire. Et j'ai effectivement intronisé ce style-là beaucoup dans les premières soirées. On faisait des soirées antillaises et ça déviait en soirée New Jack et c'était extraordinaire.
Deuxième son mythique. Bibi Tanga, vous identifiez ce son?
Mais oui, carrément. J'entends des bons mix. Il y a des PE, il y a du KRS-One aussi dedans.
Et c'est ouais. Bon. Et Professeur Inlassable?
Bah oui, parce que moi, enfin, je sais pas comment dire. C'est comme un cousin que j'écouterais. Enfin, il fait partie de ma famille, de mélange. Donc moi, j'aime ça.
Mais ce son précisément a une histoire, celui-là.
C'est la haine, effectivement.
C'est la haine. Où vous jouez votre propre rôle.
Exactement.
En 1995, le film de Mathieu Kassovitz.
Exactement. Qui fait que ouais, on a ces mouvements politiques de l'époque où je disais effectivement que par rapport au film, fallait qu'on trouve une musique adaptée à la séquence et surtout à ce que racontait ce film-là. La problématique des banlieues avec la police et surtout une idée avec Mathieu qu'on s'était posé à l'époque en se disant y aurait-il moyen de pouvoir accentuer la chanson française dans une musique rap et j'ai trouvé ça parce que mes parents avaient des disques vinyles et notamment Edith Piaf et j'ai vu non rien de rien, ça ne regrette rien, la justice nique sa mère, ça me paraissait tellement évident.
Ça paraissait évident.
Tellement, mais j'ai mis quand même je pense 5 jours à trouver, mais il fallait trouver une direction. J'étais sur plein de choses, Brel, Brassens, mais là, Edith Piaf, ça racontait quelque chose.
Il y a eu un avant, un après pour vous, en termes de notoriété avec la haine? Parce que vous êtes devenu le héros, véritablement, de toute une génération.
Au départ, pas du tout. Au départ, ce film-là, quand il est sorti, les gens commençaient à parler de cette scène réellement au moment de la sortie de cette vidéo. Donc 2 ans après, pratiquement. Et après, le temps que ça tourne, je pense que j'ai commencé à être choqué, c'était 97, 98, je pense, où j'ai mon pote de New York qui me dit « Ouais, je suis en train de voir ton film, et il passe au câble
ton
à New York. »
Ton film.
J'ai fait « Quoi ? Mon film ? De quoi tu parles ? Ah, la haine ! Ah, vous l'avez que maintenant ? Ouais, ouais. » Et dans la même semaine, je vais en Italie faire une soirée, à Rome exactement, et j'arrive et je vois placardé partout, mais genre, des affiches de la haine, donc en italien, et il venait de sortir en Italie, et j'ai dit « Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, là je comprends effectivement que ça a pris, mais c'est pas, pour le coup, là, non, c'était pas direct.
C'était l'effet boomerang. Troisième titre.
Ta gare et ta voiture ici trop tard.
Bad Boys en 1995 avec Akhenaton. Et alors, ce qui est intéressant par ce son-là, c'est que très vite vous alliez comprendre que vous ne vouliez pas être un DJ technique. Ça revient plusieurs fois dans le texte, ouais. Mais un DJ de soirée ou un DJ de groupe.
Exactement, parce que quand j'ai commencé, on avait nos affinités avec des artistes qui émergeaient à l'époque, dont un groupe qui s'appelait Timide et Sans Complexe, avec Doudou et Joël. Et puis, on a fait quelques scènes, dont les Francophonies de La Rochelle. C'est comme ça que je rencontre effectivement beaucoup d'artistes. Et puis, dans la foulée, Sidney fait HIPHOP la tournée, mais ça, c'était donc près de 10 ans après. Le premier DJ qui faisait ce DJ pour Sydney, c'était David Guetta, qui était dans le rap. Donc du coup, lui, il voulait pas faire des tournées parce qu'il était sur autre chose. Et j'ai fait les prémices. Et dans la foulée, je me suis retrouvé dans la tournée de Solar parce que Jimmy Jack était le DJ officiel qui sortait son album Les Cool Sessions. Il n'avait pas beaucoup de temps, donc je me suis retrouvé à faire ça. Puis dans la foulée, IAM et j'ai compris la production à ce moment-là, et ben beaucoup avec Akhenaton, et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais je pourrais faire autre chose de plus que de faire DJ, en fait, d'être derrière aussi, de faire la production, ça peut être pas mal, et j'ai beaucoup appris avec Akhenaton.
Alors il y a plein d'histoires, justement, on retrouve tout ce parcours dans ce livre Mixtape 2.0, on retrouve aussi les émissions de radio, puisque vous avez été vraiment une star très importante dans l'histoire du hip-hop à la radio. Il y a eu Skyrock, et puis il y a eu bien sûr...
Il y a eu Nova,
vous vous êtes fait virer parce que vous étiez trop commercial.
Au bout de 3 ans.
3 ans, ouais.
C'est-à-dire que...
Ils ont mis 3 ans pour s'en rendre compte.
Non, c'est-à-dire que, en fait, j'avais pris beaucoup de place. C'est-à-dire que Loïc et Massadian, quand ils veulent avoir cette émission, ils disent on veut un show à l'américaine. Parfait. À cette époque-là, 95, on est sur les prémices.
Ouais.
Et au fur et à mesure, ça commence à... beaucoup de radio, donc Skyrock qui commence à jouer beaucoup de rap. Forcément, il y a un programme... Loïc s'en va parce qu'il commence à faire de la prod et il y a un nouveau programmateur qui arrive et c'est beaucoup trop commercial le rap maintenant, donc du coup on veut autre chose. Je me dis ah bon, d'accord, ok, dans ces cas-là je m'en fais. C'était à l'époque, j'ai eu une grande discussion avec Bizot.
Ouais, vous êtes allé le voir chez lui.
Oui, parce que
il vous a dit t'as raison, casse-toi.
Vas-y, franchement, vas-y, parce que là pour l'instant, en ce moment, on se cherche. Il y a pas beaucoup de bref. J'ai eu l'accord de Bizot parce que pour moi c'était important entre Massadian et Bizot, et donc du coup je suis parti.
Il y a une chose sur laquelle vous finissez, et c'est assez emblématique, vous finissez ce livre sur l'anniversaire de Puff Daddy au Maroc. Au-delà de l'anecdote, un anniversaire sur quand même une semaine hein, au Maroc, avec tout le monde qui arrive, du monde entier, ça vous permet de dire quoi, cet anniversaire? On le voit bien comme une sorte de métaphore.
Complètement, c'est le post-2001, en septembre a marqué tous les esprits, la problématique de la religion musulmane dans le monde entier, c'est les terroristes, j'étais déjà DJ pour Pop Daddy, et puis... on est à New York, il me pose la question, j'aimerais bien organiser mon anniversaire, ça va être le 4e à ce moment-là. J'avais organisé au Bain-Douche à Paris déjà en amont. Et
avec puis, Jennifer Lopez qui est arrivée.
Qui était sa femme, entre autres. Et il me dit, j'aimerais bien la Casablanca. J'ai fait, Casablanca? Pourquoi tu veux la Casablanca? Parce que Humphrey Bogart, non, Casablanca. Je dis, non.
Non.
À cette époque-là, Marrakech commence à bien péter. Et je lui dis, si on va quelque part, on va à Marrakech. Mais tu veux vraiment faire ton anniversaire au Maroc? Tu sais ce que ça raconte? Je dis, justement, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont comme toi dans cette situation où on a mis, en fait, cette religion, on a stigmatisé cette religion. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est faire ça. Est-ce qu'on peut le faire? Je lui dis, bien sûr, pas de problème, tu me dis ça à moi. À cette époque-là, Jamel Debbouze était bien avec le roi du Maroc, enfin bref. Et donc on a créé des choses, dont un New York Casablanca en direct, un New York Marrakech en direct, qui n'existe toujours pas à ce jour. Et on fait venir toutes les stars américaines qui voulaient absolument venir à cet anniversaire. Tout le monde voulait à New York avoir ce pass.
Pour aller à Marrakech. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Cut Killer.
Avec plaisir.
Le livre, c'est Mixtape 2.0. Ça vient de paraître chez Robert Laffont. Bibi Tanga and the Selenites, merci à vous.
Merci.
Professeur à la Sable, merci à vous. L'album, c'est The Same Tree. Vous serez en concert le 21 octobre à Pleubian et le 5 novembre chez moi à Montpellier. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
Salut, Polo. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Non. Il vient buter mon voisin. Quoi? En plus, j'ai aussi buté sa femme!
Bon, on va faire gaffe demain. Didier des Vampas sera notre invité avec à ses côtés Luz. Ça va être le Baltrap. Pour vous, Marion?
Oh ben, nouveauté nouvelle avec 3 sons qu'ils vont adorer détester.
Je remercie l'équipe qui veille sur vos 2 oreilles. C'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Guillaume Roux, Laurent Baudouin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, le trouple de la programmation. Et enfin, aux playlists, Valentine Chedebois. Merci à toutes et à tous. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
La musique, elle n'est jamais triste.
Oui.
Elle existe.
Yes.
Ou elle n'est pas.
Bye.